7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des bidonvilles et des zones non loties. Zones non loties, ça c'est une expression élégante pour dire pudiquement que, au départ, en général, on n'a pas d'eau, pas d'électricité et qu'on vit dans un taudis. 60% des citadins africains vivent dans des bidonvilles avec sa liste d'inconforts, chaleur, pluie, promiscuité surtout. Alors faut-il raser, déguerpir comme on dit sur le continent ou aménager le chaos? C'est la dernière solution qui est désormais privilégiée par les experts, par les bailleurs de fonds, par les États. Mais comment agir en concertation avec les habitants des quartiers précaires? C'est toute la difficulté. Nous verrons l'exemple du plus grand bidonville d'Afrique à Kibera au Kenya avec notre correspondante Laure Broulard et notre invité en studio que je vous présente, Léandre Guigma. Bonjour Léandre.
Bonjour.
Vous êtes architecte urbaniste, fondateur de l'agence Perspective à Ouagadougou, où vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez beaucoup pour les quartiers non lotis. C'est là que vous habitez, donc au Burkina Faso.
J'habite bien à Ouagadougou, j'exerce à Ouagadougou et je travaille, comme vous le dites, dans les quartiers non lotis.
Urbaniste burkinabé. On est ravis de vous accueillir. On est également en ligne avec deux autres urbanistes qui connaissent très très bien le continent africain, au Cameroun avec Jérôme Chenal. Bonjour.
Bonjour.
Et à Dakar avec Benjamin Michelon. Bonjour.
Bonjour.
Benjamin Michelon, vous avez publié Douala et Kigali, villes modernes et citadins précaires en Afrique. Alors bien sûr, les voisins, on attend vos appels, surtout si vous habitez dans ces zones non loties ou à côté. Comment freiner l'expansion des bidonvilles alors que la population urbaine va doubler sur le continent africain d'ici 15 ans? Un seul numéro de téléphone. Surtout, n'attendez pas la fin de l'émission pour nous appeler. 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis, il y a aussi des photos sur Instagram. Fayala nous poste le message sans appel de Conakry. Chez nous, les bidonvilles sont souvent le nid des bandits. Mal vu les habitants des bidonvilles, Léandre?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés sur les habitants des bidonvilles. En réalité, il y a des bandits un peu partout dans la ville et il ne faut pas souvent se prêter à ces accusations un peu hâtives qui sont effectivement généralisées.
Mais ils sont toujours vus comme les auteurs du désordre de la ville.
Alors le désordre, il est effectivement lui aussi très généralisé parce que l'informel se retrouve aussi bien dans ce que vous qualifiez bidonville, donc dans les quartiers non lotis, que dans les quartiers lotis. Mais c'est vrai que dans l'opinion, on a cette tendance-là et au cours de l'émission, on pourra y revenir pour montrer que la connaissance de ces quartiers permet de dépasser certains clivages et certains préjugés.
Helmut est à Kinshasa et il nous dit presque toute la ville se transforme en bidonville. Il ne reste que très peu de bons aménagements. J'ai l'impression que le gouvernement se fiche complètement de cette situation. Je rappelle le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Vous nous suivez sur Facebook et sur Twitter en direct.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins. C'est vous qui faites l'émission.
Léandre Guigma, il y a des jungles urbaines comme Kinshasa où tout a disparu, les experts disent tout a disparu, les services et les arbres. Est-ce qu'il y a des villes comme ça qui se bidonvillisent quand l'habitat précaire recouvre finalement la ville initiale? Est-ce que c'est une vision d'optique? C'est la réalité si on est vu d'avion ou vu de drone, je ne sais pas.
Effectivement, au début, les quartiers précaires, les zones non loties, étaient à la périphérie de la zone lotie, de la zone des quartiers formels. Et de plus en plus, avec l'urbanisation, ces quartiers précaires se retrouvent englobés, enclavés, au milieu des zones loties. Et on se rend compte finalement que la périphérie, qu'elle soit lotie ou non lotie, a pratiquement les mêmes déficits en termes de services urbains de base. Vous avez dit le manque d'eau, d'électricité est aussi vrai dans la périphérie lotie que dans la périphérie non lotie. Donc effectivement, on a une généralisation de ce que vous pouvez appeler bidonvillisation. Ce mot n'est pas très apprécié
pas ce
au niveau de Ouagadougou. Donc on parle plus de quartier non lotis. Et donc effectivement, il y a cette généralisation. Et de plus en plus, les politiques publiques ont des actions d'intervention sur toute la périphérie, qu'elle soit lotie ou non lotie à Ouagadougou.
Qu'est-ce que c'est exactement un quartier non lotie, si par exemple vous parlez de Ouagadougou?
Alors à Ouagadougou, les quartiers non lotis justement se distinguent par le fait que ce soit des citadins qui se sont installés dans ces quartiers, qui ont construit leur maison d'habitation dans ces quartiers, mais en achetant les terrains, non pas auprès de l'administration publique, mais auprès de propriétaires, de possesseurs terriens, je préfère le mot possesseur, ou de chefs traditionnels, donc sans l'accord de l'administration publique.
Vous préférez le mot possesseur parce qu'ils n'ont pas forcément de titre foncier.
Exactement.
C'est pour ça que vous dites
ils
possesseur et pas propriétaire.
Effectivement, ils n'ont pas de titre foncier, mais possesseur est un terme technique. Dans la réalité, sur le terrain, tout le monde dit qu'il est propriétaire de son terrain. Voilà. Mais nous, on sait bien qu'ils sont possesseurs n'ayant pas de titre foncier, de titre de propriété formel.
Il y a aussi de l'habitat non loti où on s'installe sauvagement, sans même un bout de papier.
Tout à fait, le mot sauvagement ne convient pas beaucoup.
Informellement.
Voilà, on préfère le mot de façon qui n'est pas formelle, comme vous le dites, mais il s'installe effectivement avec toute une réflexion derrière, toute une anticipation derrière, qui consiste à, par la suite, demander, revendiquer le lotissement, revendiquer les services urbains de base. Donc, c'est tout un jeu d'acteurs, toute une stratégie de fabrique de la ville en réalité.
C'est-à-dire, une famille arrive.
Voilà. C'est-à-dire, une famille arrive à Ouaga ou de toute façon décohabite de la zone lotie et s'installe dans le non-lotie pour justement y vivre, mais aussi pour avoir accès au marché foncier légal, c'est-à-dire avoir accès à une parcelle, à une régularisation foncière et chercher à vivre décemment, c'est-à-dire avec les services urbains de base.
C'est ça. La stratégie, c'est j'y suis, j'y reste. Et donc, l'eau finira bien par arriver, la régularisation aussi, et à terme, un titre foncier.
C'est ce qui est souhaité, au moins une parcelle légale.
Oui. Il y a aussi des habitants qui se sont vus donner des parcelles par l'État ou par la commune?
Effectivement, il est fréquent de voir des résidents des quartiers non lotis qui ont déjà bénéficié de parcelles loties. Donc c'est aussi une façon de dire que le lotissement n'est pas forcément la solution, puisqu'il ne s'agit pas d'apposer une trame fonctionnelle sur un tissu urbain qui fonctionne déjà, parce que le milieu non loti, il fonctionne. Donc peut-être qu'il faille décoder son fonctionnement pour chercher à l'aménager autrement et non forcément faire un lotissement, parce que justement, en faisant le lotissement, ce qui se passe, ceux qui n'ont pas l'argent pour construire dans les parcelles en bonne et due forme, vendent ces parcelles et recréent un nouveau quartier non loti, juste à côté du quartier loti.
Ça s'appelle de la spéculation, y compris chez les pauvres.
C'est de la spéculation qui n'est pas programmée, puisque forcément, si tu n'as pas les moyens de construire dans un terrain loti et qu'on te donne une parcelle, alors que tu n'as pas les moyens de construire, alors que tu avais déjà construit dans une zone non loti, c'est une spéculation un peu forcée, mais ce n'est pas de la spéculation calculée comme on peut toujours le faire avec des préjugés vis-à-vis de ces résidents.
Est-ce qu'on a globalement abandonné l'idée de raser des quartiers entiers pour reconstruire ou pas dans les quartiers précaires sur le continent africain?
Alors cette idée a été effectivement répandue il y a un bout de temps avec justement tous ces lotissements. Vraiment, on apposait une trame fonctionnaliste sur les quartiers non lotis existants. Mais aujourd'hui, on va plus vers de l'amélioration, vers de la restructuration de ces quartiers. Et avec ONU Habitat, le programme participatif d'amélioration des bidonvilles à Bissiguin, qui est un quartier non lotis de Ouagadougou, il y a eu donc des actions pilotes d'amélioration de ce quartier, notamment à travers l'amélioration des voies. Elles n'ont pas été agrandies, ça c'est très important
les
de le dire. Les rues n'ont pas été agrandies, donc on n'a pas cassé de maison. On a juste amélioré l'état des voies en gardant la structure du quartier. Également avec l'accès à l'électricité, avec des panneaux photovoltaïques qui sont donc les bienvenus dans ces quartiers non lotis, et aussi l'amélioration de l'accès aux services, je pense à l'eau potable et à des équipements sociaux de base.
Avec des bornes fontaines notamment.
Avec des bornes fontaines, bien sûr.
Voilà. Oui, l'eau n'arrive pas jusqu'à chaque maison individuelle.
Et justement, l'innovation à Bissiguin, c'est qu'on est arrivé avec des réseaux souples à amener l'eau dans certains ménages. Donc ça, c'est également des innovations. En fait, ces quartiers donnent l'occasion d'innover pour les professionnels et les experts.
Même quand les ruelles sont très étroites.
Même
parce que par
ruelles...
définition aussi, dans cet habitat informel, les rues sont très étroites parce que, on n'a pas forcément une voiture à garer devant la maison, en général, dans ces quartiers. Nous sommes en ligne avec Jérôme Chenal. Bonjour, donc rebonjour. Vous assistez aujourd'hui au Cameroun au lancement d'un programme de rénovation des quartiers précaires qui est annoncé par le ministre de l'Urbanisme. Vers quoi s'oriente le pays très concrètement là, pour les habitants des quartiers précaires?
Alors, ce qu'on essaie de faire ici, c'est effectivement, vous avez abordé les différentes manières d'aborder du quartier précaire, on essaie de faire de la restructuration in situ, qu'on essaie d'améliorer les conditions de vie des populations en ne les déplaçant absolument pas, ou si on doit déplacer ça et là quelques personnes, le but est de les déplacer le plus proche possible de l'habitat qu'ils ont aujourd'hui. Pourquoi ? Pour ne pas casser tous les liens sociaux, pour ne pas tout d'un coup mettre des gens en périphérie de la ville alors que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils habitent dans leur quartier précaire.
Et que souvent, d'ailleurs, ils ont trouvé un emploi pas trop loin. Hein. Ça aussi, c'est le problème. Quand on déplace les quartiers, ils se retrouvent avec 2 heures de trajet pour aller travailler.
Alors, traditionnellement, les quartiers précaires, ou les bidonvilles à l'époque, comme on les appelait, sont nés autour des bassins de l'emploi. On a des quartiers précaires qui se sont développés dans certaines villes tout près du port. C'est le cas à Nouakchott, notamment, où on utilisait même les caisses en bois du port pour faire les baraques pour l'habitat. Donc il y a une relation directe entre l'endroit où on travaille et l'endroit où on vit. Sauf que si on déplace les gens maintenant, si on fait des restructurations où on va déplacer un certain nombre de gens dans des zones de recasement, comme on les appelle, c'est des zones libres, et ces zones libres, elles sont en général en périphérie. Donc on va déplacer les gens qui sont déjà extrêmement vulnérables dans des zones qui certes seront mieux, mais dans des zones qui seront périphériques, et comme vous le dites, on aura peut-être 1 heure, 2 heures, parfois 3 heures de déplacement. Et ce n'est pas qu'une question de durée de déplacement, c'est une question de coût de déplacement.
Oui.
Et on se retrouve dans des situations où on a des gens qui passent un tiers, la moitié, voire plus de la moitié des revenus qu'ils ont dans des déplacements.
Jérôme Chenal, vous restez en ligne avec nous. Un habitant de zone non lotie nous appelle, un voisin de Conakry nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Alassane.
Allô, oui, bonjour. La RFI.
Vous vivez dans la commune de Matoto, c'est bien cela?
Oui, je vis dans la commune de Matoto. Presque toute la commune de Matoto, ce sont des quartiers non lotis.
Oui.
Toutes les quartiers de la commune de Matoto sont des quartiers mal construits. Chacun construit à sa volonté. Jusqu'à ce qu'on construit, c'est-à-dire on occupe la route des parcelles des eaux usées qui entraînent des maladies graves dans la société. À chaque fois qu'une épidémie ici se présente en Guinée, la commune de Matoto figure, c'est-à-dire en tête des zones plus attaquées ici en Guinée.
Oui.
Donc je vous appelle ici depuis à l'Ansanaya. C'est pour vous dire que ce quartier-là aussi, c'est un quartier qui commence à être construit. En fait, c'est un quartier qui n'est pas totalement construit, mais les effets commencent aussi à planter fluide ici. Parce que tout le monde se sent inquiété à travers ce que je vois dans les autres villes qui ont été mal développées, de quelle sorte.
C'est ça. Votre quartier a notamment des routes tout à fait impraticables, quartier avec de l'insécurité et en proie aux épidémies, du fait aussi de la promiscuité. Alassane, vous vivez dans quel type d'habitat exactement? Vous pouvez nous décrire?
Je n'ai pas compris la question.
À quoi ressemble l'endroit où vous vivez exactement, Alassane?
L'endroit où je vis, c'est un bidonville en un mot.
Et c'est quoi? Les murs sont en quoi? Le toit est en quoi?
Les murs sont en banco. Les toits sont en... C'est-à-dire des tôles. Nous sommes dans un pays pauvre en un mot avant tout. Comme vous voyez l'image de la Guinée, presque notre tôle est presque rouillée. les mis en banco jusqu'à présent là. Ça ne va pas ici en Guinée. Donc, l'État doit faire face à des problèmes très, très, très néfastes pour la société.
Où se trouve la bande fontaine la plus proche de votre maison en banco et en tôle ondulée rouillée, Alassane?
Je n'ai pas compris.
Où se trouve la borne fontaine pour l'eau, l'accès à l'eau, le plus proche de chez vous, c'est où?
Bon, le coup, ici, le quartier, quand même, on n'a pas le problème d'eau potable. Mmh. Les eaux qu'on utilise ici proviennent, c'est-à-dire directement du central, quoi. Bon, ici, quand même, le problème d'eau, quand même, c'est suffisant.
Il suffit.
Tout le monde se sent ravi au niveau de la fourniture en eau potable.
Qu'est-ce que vous aimeriez, là, comme amélioration urgente pour vous, habitant d'un quartier précaire, d'une zone non lotie à Conakry?
Oui. C'est le problème de l'habitat. L'habitat, je suis assis dans le bureau, ne savent pas ce que je passe dans le terrain. Il n'y a même pas des hommes du terrain. Toutes les hommes du terrain sont corrompus. Chaque habitant construit à sa volonté. Je voulais que l'État et une réflexion au niveau de ces habitats-là, quoi, qui travaillent. Salut, madame, est-ce que vous connaissez un peu les réalités de la Guinée ici?
Non, vous faites bien de le préciser. Vous voulez dire que finalement, la ville est pensée par des gens qui sont dans les bureaux. Et vous, ce que vous demandez, c'est une réflexion à la place de la corruption, finalement?
À la place de la corruption, en amont. La corruption fera ici en Guinée au niveau de cet habitat-là. Ce sont eux qui sont à la source de toute malheur ici pour le pays au niveau de ces épidémies graves-là.
Merci beaucoup, Alassane, de nous avoir appelé. Léandre Guigma, comment vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre?
Je voudrais réagir par rapport à la discipline locale qu'il doit y avoir dans ces quartiers. Il l'a dit, certains occupent les rues. Et ça, c'est pas normal. Une rue, c'est un espace partagé. Et il est très important au niveau des résidents des quartiers non lotis qu'il y ait une discipline, une autodiscipline. Parce que ce n'est pas la police, ce n'est pas les pouvoirs publics qui vont venir discipliner les occupations. Donc, cette autodiscipline doit exister. Et effectivement, lorsque il y a le laisser-faire effectivement, qui prend le dessus, où effectivement les rues sont occupées, là, il y a nécessité de restructurer pour quand même libérer les rues. Libérer les rues parce que c'est le passage de l'eau. Parce que si l'eau n'arrive pas à passer, il y aura des inondations. Non, les rues ont un rôle, bien sûr, pour circuler, mais aussi pour laisser passer l'eau. Et ça, c'est très, très important au niveau des résidents des quartiers.
Les quartiers précaires sont aussi souvent situés sur des zones à risque, zones de risque d'inondation, risque d'éboulement aussi.
Hein. Tout à fait.
On va donner la parole à Benjamin Michelon, un autre urbaniste. Vous avez publié Douala et Kigali, villes modernes et citadins précaires en Afrique, Benjamin Michelon. Est-ce qu'on assiste à l'heure actuelle à l'émergence, finalement, d'une Afrique à deux vitesses, grand building contre tôle ondulée rouillée?
C'est un peu le modèle que promeut actuellement Kigali. Vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'on doit raser, est-ce qu'on doit faire de la restructuration de situ? À Kigali, il y a quelques bidonvilles dans le quartier de Kimchanga, qui est un quartier qui était en bas dans la colline, dans les marécages, en bas de colline,
oui.
Et qui a été totalement rasé pour construire la paix.
Benjamin Michelon, on va essayer de vous rappeler pendant le flash. Nous allons rendre l'antenne d'ici une minute parce que la ligne se dégrade. Mais je pose la même question à un autre urbaniste, Jérôme Chenal, également en ligne avec nous, sur cette Afrique à deux vitesses, grand building contre tôle ondulée.
À deux vitesses, mais ce n'est pas la même proportion des gens qui ont chacun la vitesse. Donc vous citiez 60%. D'une population d'une ville, c'est le cas aujourd'hui à Douala, par exemple. Il y a certaines villes où c'est 80% de la population qui vit dans les quartiers précaires. Et donc, ça veut dire qu'il y a 20% de la population qui ne vit pas dans les quartiers précaires. Il faut savoir que ce soit Kigali ou les grandes villes, ce qu'elles renvoient comme image, c'est l'image du lieu de vie d'une très petite minorité des habitants. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas exister, simplement... Ça, c'est pour la world class, des gens qui se déplacent, des gens qui sont relativement riches, des gens qui peuvent être à Kigali un jour, aux États-Unis un autre jour, mais l'habitant de la ville majoritaire, c'est pas celui-là.
Alors justement, on va en parler, on va se retrouver dans 3 minutes, juste après le flash, et surtout, on va parler des problèmes fonciers et des titres de propriété dans cette ville.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins, si vous prenez l'émission en cours de route, on parle des bidonvilles. Townships, favelas, slums, villas miserias, tous ces termes désignent aux quatre coins du monde une même réalité. Des habitats sommaires érigés parfois maintenant en plein cœur des villes, parce que la ville grandit, s'étale à l'horizontale et donc sans aucun contrôle souvent des autorités. Alors comment endiguer la prolifération de ces abris de fortune? Peut-on aménager, restructurer ces zones précaires censées être temporaires et qui ne le sont plus du tout justement? On en discute avec nos experts pour améliorer les conditions de vie des habitants. Léandre Guigma, vous êtes architecte urbaniste et vous avez fondé l'agence Perspective à Ouagadougou. Vous travailler au Burkina Faso et vous avez justement beaucoup travaillé sur les quartiers non lotis. On est également en ligne avec deux autres urbanistes, Jérôme Chenal et Benjamin Michelon, qui a travaillé sur Douala et Kigali. Appelez-nous les voisins au 33 1 84 22 71 71, y compris si vous vivez bien sûr dans une zone non lotie, comme on entendait Alassane en première partie d'émission dans la commune de Conakry. Et tout de suite, direction Kibera, le bidonville le plus célèbre du Kenya. Il s'étend sur plus de 200 hectares, c'est presque la taille de Central Park à New York. Et il abrite 170 000 à 250 000 personnes, selon les estimations. Tristement célèbre pour ses toits de tôle rouillée, son insalubrité. Mais c'est vrai que ces 10 dernières années, le bidonville a bien changé. On est en ligne avec la correspondante de RFI à Nairobi. Bonjour Laure Broulard.
Bonjour.
Dites-nous où on en est aujourd'hui à Kibera.
Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'évolutions. Les gens de Kibera disent aujourd'hui que la situation a radicalement changé et principalement en termes de sécurité. Des zones où il était par exemple très dangereux de circuler il y a plusieurs années ne présentent maintenant plus aucun risque. Et ça, c'est symptomatique d'une amélioration générale des conditions de vie dans le bidonville, même s'il faut souligner qu'elles restent très très difficiles. Mais en 2004, par exemple, aucune maison de Kibera n'était reliée au système d'égout. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, même s'il y a encore du chemin à faire. Et le phénomène des flying toilets, par exemple, diminue aussi. Auparavant, les habitants n'avaient pas d'autre option que de faire leurs besoins dans des sacs plastiques et de les jeter par la fenêtre. Mais maintenant, il y a de plus en plus de toilettes publiques, environ une pour 40 ou 50 personnes. Surtout, il y a des routes au milieu des baraques de tôle rouillée et on aperçoit aux franges du bidonville de plus en plus de maisons en dur, donc en briques, de véritables immeubles.
Et ça, c'est le résultat de plusieurs projets qui ont été mis en place par des ONG, mais aussi par le gouvernement kényan.
Tout à fait. Je pense par exemple au NYS, c'est le National Youth Service. Il a été mis en place par le président Uhuru Kenyatta en 2013 dans le cadre d'un programme d'amélioration des bidonvilles du Kenya. Alors ce National Youth Service, il prévoyait de donner une activité à des jeunes de ces quartiers en les encadrant pour qu'ils améliorent les structures des bidonvilles. Mais comme tous les projets dans les bidonvilles kényans, il a été très très critiqué et il y a eu beaucoup de complications.
Alors, il y a par exemple un projet du gouvernement qui a cristallisé les tensions cette année, Laure Broulard, c'est celui d'une nouvelle route à Kibera.
Oui, alors ça c'est très intéressant parce que ce projet met vraiment en lumière tous les enjeux de la transformation de Kibera et des bidonvilles au Kenya. Alors cette route, elle vise à relier le centre-ville au quartier huppé de la capitale qui se trouve de l'autre côté de Kibera. Le gouvernement assure que comme les autres routes plus petites qui ont déjà été faites dans le bidonville, elle apportera de l'activité économique, elle permettra aux camions de pompiers et aux camions apportant de l'eau de circuler plus facilement. Elle pourrait aussi désenclaver encore un peu plus Kibera, améliorant la sécurité. Mais si aujourd'hui on va sur le terrain, on peut remarquer que depuis des mois, la construction de la route a commencé donc des deux côtés du bidonville, mais elle ne l'a pas encore traversée. Et c'est parce que plusieurs groupes d'habitants ont saisi la justice pour s'opposer à sa construction. Alors ça peut sembler surprenant, mais c'est parce que pour construire cette route, il va falloir raser des structures de tôle, mais aussi des écoles et des hôpitaux informels qui se sont installés sur le terrain public. Et donc il va falloir relocaliser tout ce monde et ça, ça ne passe pas.
Alors justement, pourquoi ça ne passe pas? Est-ce qu'un jour, cette route, ces deux bouts de la route vont se rejoindre? Est-ce qu'on aura enfin cette route terminée?
Alors ça, rien ne permet de le dire, mais le gouvernement kényan va sûrement pousser pour que ça se fasse. Mais ce qui peut expliquer la résistance des populations, c'est d'abord que les Kenyans sont habitués à la corruption et qu'ils considèrent que les projets des pouvoirs publics ne profitent qu'à certains, et c'est souvent le cas. Aussi parce que certaines communautés, comme les Nubiens par exemple, considèrent que Kibera est leur terre ancestrale, revendiquent des titres de propriété depuis des années. Beaucoup aussi contestent le montant des indemnisations, ils disent que ce n'est pas assez. Et puis, il faut savoir que Kibera a pris plusieurs tribus kenyanes qui habitent regroupés dans différents villages qui composent le bidonville. Alors, on demande pourquoi la route passe chez nous ou pas chez eux. Enfin, c'est extrêmement complexe. Et un travailleur social que je connais bien résume la situation en disant que souvent les habitants de Kibera se plaignent de leurs conditions de vie, mais en même temps, ils refusent la plupart du temps à ce qu'on touche à leur bidonville.
Ouais, et à leur maison finalement. Il faut dire qu'il y a aussi de gros intérêts financiers et politiques dans tout ça, de la spéculation.
Oui, exactement, et ça c'est vraiment le fond du problème, parce que Kibera est donc légalement un terrain complètement public, hein, mais les personnes qui détiennent les milliers de structures de tôle du bidonville gagnent parfois beaucoup d'argent en termes de loyer. Certains de ces grands propriétaires, qui sont donc très aisés, hein, vivent en dehors du bidonville. Mais il y a aussi, vous l'avez dit, des enjeux politiques. Les bidonvilles sont les zones primordiales de vote pour l'opposition. Et par exemple, en 2004, Raila Odinga, qui est l'actuel leader de l'opposition, hein, et un ancien élu de Kibera, Raila Odinga s'était opposé à un plan d'amélioration de l'habitat du bidonville qui nécessitait, là aussi, une relocalisation temporaire de certains habitants. Et à tout cela s'ajoute aujourd'hui la montée de la valeur du terrain de Kibera, parce qu'il est situé très proche du centre-ville. Et donc cela attire de plus en plus de promoteurs immobiliers. Et ça, ça inquiète aussi beaucoup les habitants.
Oui, l'appétit des bidonvilles, avec notamment les seigneurs des bidonvilles qui louent ces morceaux de tôle. Ce qui fonctionne le mieux finalement, Laure Broulard, c'est peut-être ce sont les projets qui viennent de la communauté elle-même, faits par la communauté.
Oui, alors ça, quand on va à Kibera, c'est très visible. Hein. Il y a un nombre incalculable de coopératives. Ici, on les appelle les SACO. Et donc, les habitants se regroupent. Hein. Ils mettent en commun, par exemple, leurs économies. Et ça va leur permettre d'améliorer pour les femmes le marché ou alors pour d'autres groupes leurs habitations. D'autres encore vont gérer des centres sociaux, des centres artistiques. Ça permet aussi à certains d'avoir accès au crédit et parfois d'acquérir un terrain en dehors de Kibera et donc de devenir enfin véritablement propriétaire.
Merci Laure Broulard. On attend bien sûr la suite du dossier sur la fameuse route qui traversera un jour le bidonville de Kibera. Léandre Guigma, architecte urbaniste à Ouagadougou, que vous évoque la situation à Kibera, évidemment gigantesque bidonville par rapport aux zones non loties de Ouagadougou, mais on a l'impression que c'est un peu comme un jeu de Mikado, vous savez, cet enchevêtrement d'allumettes, et puis dès qu'on en retire une, si on touche à une allumette, c'est pas que tout s'effondre, c'est plutôt « touche pas à mon bidonville, sinon tu vas voir ».
C'est ça. Donc je voulais vous faire un témoignage. On est allé à Kibera avec une habitante du bidonville de Ouagadougou, de Bissiguin, une habitante du bidonville. Et quand elle a vu Kibera, elle est de retour à Ouagadougou dans son bidonville, elle a dit « Nous ne sommes pas dans un bidonville, j'ai vu un vrai bidonville ». C'est déjà pour vous dire qu'effectivement, la différence de perception qu'on peut avoir des bidonvilles…
Et visuellement, que quelle était la différence entre Kibera et Kissiguin à Ouagadougou ?
La grande promiscuité et surtout la qualité des constructions. Parce que chez nous, à Ouagadougou, les constructions sont en terre, qui est un matériau noble, même si lorsqu'il est mal implanté, il ne résiste pas à l'eau. Mais de plus en plus, il y a des constructions qui sont faites, les fondations sont faites en parpaing, et ça a été noté. L'amélioration du quartier qui a été évoquée dans les témoins, je voudrais vraiment insister là-dessus. À Bissiguin, on a remarqué également au fil des ans une consolidation des constructions et même un remplacement de plus en plus des murs en banco par des murs en parpaing.
Et sur le toit?
Et sur le toit, ça reste de la tôle, parce que c'est le matériau le plus accessible.
Fournaise en ces gens chauds.
Effectivement, mais au moins, ça protège contre les intempéries et la paille n'est pas à remplacer chaque année, la paille ne résistant pas aux incendies. Donc pour le moment, on est avec de la tôle et des murs de plus en plus en parpaing. Et puis effectivement, l'implication des résidents, la participation des résidents dans tous les projets, je pense que ce n'est pas un vain mot. Il est très important, lorsqu'on veut intervenir dans ces quartiers, effectivement, de prendre en compte l'avis des résidents. En fait, cette fameuse route qui doit traverser le quartier, elle ne se fera pas sans la coopération, l'implication des résidents dans le tracé de cette route, dans son gabarit, etc. etc. Il faut arrêter, même nous, experts, ayant été formés dans des grandes écoles, arrêter de penser qu'on a la solution pour les habitants, mais de les impliquer dans la recherche de cette solution afin que cette solution soit vraiment adaptée à leurs besoins.
On donne la parole à un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Élie, bonjour, vous êtes à Kampala en Ouganda.
Bonjour, en fait, je suis à Kampala et je suis intéressé par les sujets dont vous traitez aujourd'hui concernant le bidonville. En fait, ici à Kampala, comme toutes les autres villes de l'Afrique, il y a des bidonvilles. J'ai cité par exemple sur ma page Facebook le cas de Makindye, où pratiquement vous avez des zones non loties, où il y a difficile, si quelqu'un vous donne par exemple son adresse, il est difficile de les rencontrer. En fait, le gouvernement cherchait par tous les moyens comment aménager ces espaces, mais le gouvernement est bité en fait à des difficultés terribles, parce que cela est prévu par la constitution ougandaise à son article 15, qui est point 237, que la terre appartient à la population.
Oui.
Et que et maintenant, le gouvernement, si le gouvernement veut aménager l'espace, le gouvernement c'est pratiquement à cette disposition ici. Mmh. Et si vous descendez au point 3, pratiquement là, il est décrit pratiquement les ownership, qu'on appelle en français, c'est pratiquement les droits des propriétés. Et ici, il y a les customary, c'est-à-dire les terres conventionnelles, et il y a les freehold, les biens tenus à propriété perpétuelle. Et le gouvernement se heurte pratiquement à cette disposition ici des freehold, c'est-à-dire le bien tenu à propriété perpétuelle.
C'est ça, et c'est ce qui empêche évidemment des aménagements pour l'État qui n'est pas à proprement parler propriétaire de la terre. Et donc il y a des indemnisations qui sont demandées, donc des discussions, donc des conflits en fait.
Oui, oui, en fait le gouvernement, si le gouvernement veut aménager un espace, et si le gouvernement s'erre pratiquement à cette disposition ici des freehold, c'est-à-dire des biens tenus en propriété perpétuelle, là, le gouvernement doit engager des discussions préalables avec les propriétaires.
Voilà, mais discussion toujours financière, hein, en fait, il faut bien le dire. Même si l'état de propriété d'un pays à l'autre varie, ça peut être des propriétés d'ailleurs provisoires, mais néanmoins, le nœud de la discussion achoppe toujours sur des questions financières. On est bien d'accord, Léandre Guigma?
Tout à fait, justement, par rapport au foncier, je voudrais dire que l'entrée par le foncier a entraîner beaucoup de blocages dans les politiques publiques. Parce que justement, il y a beaucoup d'enjeux financiers, économiques autour. Alors justement, aujourd'hui, on détourne cela, on contourne cela et on fait une approche par les équipements, par les services sociaux de base. Donc, mettez-vous d'accord pour choisir l'emplacement de l'école, choisir l'emplacement du centre de santé, l'emplacement de la bonne fontaine, etc.
Peu importe de savoir qui est propriétaire.
Exactement. Mmh. Et là, on intervient de façon concrète, de façon tangible, à l'amélioration des quartiers. Parce qu'effectivement, lorsqu'on rentre sur les questions foncières, il y a des superpositions de droits, c'est beaucoup plus compliqué.
Droit coutumier, droit moderne.
Voilà. Mmh. Mais petit à petit, la question foncière peut être réglée au finish en intervenant, en améliorant les services urbains de base et les équipements.
Mamadou est un autre voisin qui nous appelle cette fois-ci de Bamako. Bonjour Mamadou.
Oui, bonjour madame.
Vous souhaitez nous parler de ce qu'on a qualifié naguère de bidonville, mais qui n'est plus du tout un quartier provisoire. Hein, le quartier de Sabalibougou, c'est bien ça, à Bamako, qui était au départ un quartier pour accueillir des sans-abri et qui est devenu un quartier non loti.
Absolument.
Donc avec des constructions anarchiques?
Oui, absolument.
Vous souhaitez intervenir notamment pour parler du rôle des élus par rapport aux droits de propriété?
Oui, tout à fait.
On vous écoute, Mamadou.
Oui, oui. En fait, bonjour, cher auditeur. La politique de l'urbanisme et de l'habitat au Mali est confrontée à de nombreuses difficultés et en travaillant par bonne marche. Et à Bamako, plus précisément, nous avons bon nombre de quartiers précaires qui fut d'abord construits, comme vous l'avez bien dit, qui fut d'abord construits pour accueillir les sans-abri. Mais au fil du temps, les habitants de ces quartiers sont devenus nombreux. Et du coup, nous assistons à des constructions anarchiques des maisons. Et ce qui rendra sans doute très difficile le lotissement de ces quartiers qu'on qualifie de risque. Et les conditions de vie de ces populations sont très déplorables, d'où la multiplication de petits délinquants ou de la prolifération de certaines maladies. Mais pour la plupart du temps aussi, ce sont les élus locaux qui, c'est-à-dire les maires et les chefs coutumiers qui vendent ou qui distribuent illicitement ces lieux à usage d'habitation aux individus.
Vous voulez dire qu'ils vendent alors qu'il n'y a pas de titre de propriété. Donc, en principe, on ne peut pas vendre si on n'a pas un titre de propriété. C'est ce que vous voulez dire, Mamadou?
Absolument.
Oui. Merci. Merci pour votre intervention. Et merci aussi à Elimpia qui était à Kampala. Je voudrais aussi lire des messages concernant le tchat. Daniel qui nous dit qu'à N'Djamena, les lotissements des terrains ne sont pas anticipés. Les populations achètent donc des terrains de manière traditionnelle, avec les boulamas, les chefs traditionnels de N'Djamena, pour construire et habiter durant des années. L'État oblige ensuite les habitants à revenus modestes à partir pour revendre ces constructions, par exemple aux stations de carburant, sans dédommagement, ce qui crée des tensions sociales. Et puis on a aussi le même constat d'Abderrahmane, qui est également dans la même capitale, N'Djamena, et qui dit que parfois le gouvernement aménage des terrains en les lotissant, c'est-à-dire pour distribuer aux personnes qui en ont fait la demande, mais que c'est très rare. Donc on voit bien que le foncier est le nœud du problème, Jérôme Chenal.
Oui, c'est effectivement le nœud du problème, c'est la propriété foncière individuelle. Donc on a longtemps, comme le disait mon collègue, imaginé qu'il fallait d'abord régler les problèmes fonciers. On se rend compte maintenant que cette propriété individuelle, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Il y a des expériences, notamment en Asie, où on a ce qu'on appelle les commons, où ce sont des propriétés qui sont des propriétés collectives. Et ce qui est assez paradoxal en Afrique, c'est qu'il y a une longue tradition en Afrique de propriété collective du sol.
Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est envisageable, cette notion de propriété collective, à une époque de la mondialisation et de la spéculation immobilière à tous les étages sur la planète ?
Il y a deux choses. C'est que la première, c'est que si on continue toujours à opposer droit dit moderne et droit coutumier, on n'y arrivera pas, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ça, vous avez raison. Maintenant, il y a une sorte de troisième voie possible, une sorte d'altermodernité entre le coutumier et le droit moderne. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Il faut réinventer de nouvelles formes de propriété collective. Alors, on n'a pas la solution comme ça, mais c'est vers ça qu'il faut tendre. Ce que je veux dire quand même, les problèmes fonciers viennent du fait que dans les quartiers précaires, les gens n'ont simplement pas les moyens d'acquérir une parcelle. Donc on a des populations qui sont trop pauvres pour le marché foncier libre.
Ouais. Selon les chiffres de l'ONU Habitat en Afrique subsaharienne, pour que le ménage moyen accède à ce qu'on appelle un logement formel, abordable, ce ménage doit souvent épargner l'intégralité de son revenu pendant une période de 27 ans. Autant dire que c'est inenvisageable, non ?
C'est juste inenvisageable. Donc on parle bien sûr de spéculation, on parle bien sûr de distribution, on parle de restructuration et de dédommager les gens, mais on oublie quand même que cette situation aujourd'hui, elle est là parce qu'on a des quantités de pauvres qui n'ont simplement pas les moyens d'acquérir un endroit pour vivre. Et donc on va faire quoi avec tous ces gens? Il faut bien à un moment donné que ces gens s'installent quelque part.
Benjamin Michelon, nous vous avons retrouvé, j'espère que la ligne est meilleure. Vous êtes à Dakar, vous êtes urbaniste également, vous avez beaucoup écrit sur Kigali, la capitale rwandaise. Est-ce que Kigali a trouvé des solutions sur l'habitat précaire ?
Alors, trouver des solutions, je ne sais pas, en tout cas, il propose une solution qui actuellement plaît à beaucoup de dirigeants africains. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de restructuration en rasant carrément les bidonvilles, comme ça a été le cas pour Kimichanga, qui est un bidonville qui dans un marais, où les gens ont vu totalement déménager.
Donc, la vision autoritaire?
Alors, c'est une vision autoritaire qui vise à moderniser le centre-ville, et donc à développer une économie, finalement, en disant que les gens vont s'adapter à ce développement économique, et donc leur vision, c'est de tirer la ville, entre guillemets, et donc, aux gens de s'adapter de manière assez autoritaire, effectivement, de déménager ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à des kilomètres du centre-ville, et de se reloger dans des nouveaux logements, et de s'adapter à une nouvelle situation sociale, une nouvelle situation spatiale aussi.
Ouais. La vision idéale des dirigeants en Afrique, mais pas que en Afrique d'ailleurs, c'est de, on peut dire presque partout dans le monde, c'est de repousser éternellement les pauvres aux périphéries, en espérant qu'un jour on ne les voit plus.
Bah, c'est un peu ça, sauf que le problème actuellement, c'est que dans nos villes africaines, on va avoir de plus en plus de gens qui arrivent et qui veulent se loger. Donc on a cette confrontation des gens qui sont repoussés en dehors de la ville, et puis des gens aussi qui arrivent pour vivre en ville. Donc on a une périphérie, un problème finalement qui ne fait que grossir.
Et Jérôme Chenal, vous nous le disiez en première partie d'émission, quand la périphérie et l'habitat précaire, c'est 80% de la population, c'est difficile de se faire oublier, non ?
Ben oui, justement, donc on a des armées de pauvres qui sont là, et le système autoritaire, on le verra dans quelques années, ne fonctionne pas de mon point de vue. On doit faire quelque chose avec ces gens, on doit faire quelque chose avec tous ces gens qui sont le produit de la société dans laquelle on vit. La pauvreté et la redistribution des richesses, c'est ça la centralité du problème. Finalement, le quartier précaire, le bidonville, le slum, c'est, je dirais, l'image de cette pauvreté, c'est ce qu'on voit. Mais le vrai problème, c'est un problème de pauvreté.
Comment expliquer que l'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie, même l'Égypte, soient parvenus à de vraies politiques de rénovation des quartiers précaires et qu'on n'y arrive pas en Afrique subsaharienne ?
Il y a une volonté très claire. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place, notamment en Tunisie, où on a taxé le ciment et sur chaque tonne de ciment, on a récupéré des choses pour faire des programmes d'habitat. On a misé plus sur les questions d'habitat que sur les questions foncières. Et voilà, et il y a aussi un développement économique, peut-être au Maroc ou en Algérie. L'Algérie est un pays quand même relativement riche, donc on n'est pas dans cette figure dans tous les pays d'Afrique subsaharienne. C'est
taxer le ciment en Afrique subsaharienne pour dégager un budget pour construire mieux et reloger, mieux reloger en habitat précaire, c'est inenvisageable ?
Non, c'est pas inenvisageable. Je pense qu'il y a des mécanismes qu'on doit trouver. La question, elle est centrale, c'est celle de la redistribution des richesses. Voilà. Alors, on se plaint qu'il y a un manque de ressources, mais quand on voit de très très près comment sont réparties les ressources, on se pose la question si c'est un manque de ressources ou c'est une mauvaise répartition de ces ressources. Donc, on pourrait commencer par répartir différemment. Il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent aussi de taxation. Il y a des gens qui payent des impôts, mais il y a une grande quantité de gens qui ont des moyens qui ne payent pas d'impôts. On a des mécanismes comme ça, mais alors bien sûr, ça ne fait pas plaisir aux gens qui prennent les décisions. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas mises en place. Mais de dire simplement on n'a pas les moyens, je pense que ça c'est une vision qui est un petit peu faussée. Et je pense qu'on a des mécanismes qui sont possibles et certains pays essaient de les mettre en place.
Léandre Guigman, on arrive bientôt au terme de cette émission. Alors comment dégager des moyens pour rénover les quartiers précaires, puisqu'on l'a vu, sinon c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mieux vaut pour le moment être pragmatique et rénover ces quartiers précaires. Alors comment trouver la volonté politique et l'argent surtout, et quel argent, qui doit payer dans le fond ?
Tout le monde doit mettre la main à la poche. Hein. Je pense que tout se situe au niveau de cette troisième voie dont parle Jérôme Chenal, entre le laisser-faire et l'intervention radicale de détruire ces quartiers. Et effectivement, quand on parle de chercher l'argent, chez nous par exemple, à Ouagadougou, ce que les populations réclament, eh bien, c'est que le prix du ciment baisse. Déjà, que les matériaux de construction sont moins taxés. Parce que finalement, ces matériaux sont taxés. C'est toujours l'État qui... Enfin, l'État, c'est vrai, les taxes, ça profite à tout le monde. Mais si on réduit les coûts des matériaux de construction, eh bien, ça permettrait effectivement aux habitants de construire. Je pense qu'il y a un jeu à faire, un équilibre
donc,
à trouver.
C'est ça, pour de l'autoconstruction. Pour là, de pour l'auto, coup, parce hein, que, chez nous, que ce soit la famille qui reconstruise elle-même son propre bidonville.
Exactement. Chez nous, on est vraiment dans la promotion de l'autoconstruction, même si l'État a également aussi un programme de construction de 40 000 logements en vue. Il y a aussi cette autoconstruction qui occupe le plus grand nombre de places en termes de construction. Et comment faciliter, comment aider cette autoconstruction ? Effectivement, ça passe par une diminution du coût des matériaux de construction. Et surtout, il ne faut pas généraliser, uniformiser en pensant que c'est que des quartiers de pauvres. Il y a vraiment une économie locale au niveau de ces quartiers. Il y a des gens qui s'installent dans ces quartiers justement parce qu'il y a des opportunités économiques dans ces quartiers. Et on ne peut donc pas imaginer raser ou détruire toute cette économie. Et il y a une certaine prospérité aussi dans ces quartiers.
Et des talents.
Et des talents, que ce soit dans le domaine artistique, dans le domaine culturel, qui sont à promouvoir et s'appuyer sur cette petite économie pour justement chercher à améliorer, à consolider le quartier, c'est également une piste.
Est-ce qu'on peut planifier, organiser aussi vite que la démographie finalement et la croissance des familles et des villes elles-mêmes et de ces quartiers-là ? Ça va tellement moins vite.
Effectivement.
Alors, je ne sais pas, à Ouaga, probablement moins vite que dans d'autres villes africaines. Encore que, non ? Vous pouvez nous redonner un exemple là, du rythme de croissance urbaine à Ouaga, dans les quartiers non lotis ? Les derniers chiffres ?
On est à 7,6% de croissance démographique en général. Et les quartiers non lotis qui occupent un tiers de la population,
de Ouaga,
sont seulement sur moins d'un quart de la superficie. Donc c'est pour dire que les quartiers non lotis sont les plus denses de la ville. On est à 100 habitants à l'hectare dans les quartiers non lotis, alors qu'en général, on est à 40 habitants à l'hectare dans la ville. Donc c'est là que se trouvent les gens. Voilà pourquoi...
Et des gens qui arrivent tous les jours.
Des gens qui arrivent, des gens
pas
qui
que
travaillent, etc. Et c'est pour ça aussi qu'au niveau politique, c'est effectivement là qu'il faut aller chercher les voix. Et donc, pour aller chercher les voix, il faut faire des promesses, mais il faut également réaliser ces promesses.
Et réaliser
ces promesses
vite.
Passent par l'amélioration, la restructuration de ces quartiers.
Merci à vous, Léandre Guigma, d'être venu de passage chez 7 milliards de voisins. Vous repartez bientôt pour Ouagadougou. Jérôme Chenal, merci aussi à vous. Et merci à Benjamin Michelon, auteur de Douala et Kigali, ville moderne et citadin précaire en Afrique, aux éditions Cartala. Merci à toute l'équipe, Arthur Tossou, Baptiste Madinier, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram maintenant. Demain, 7 milliards de voisins, reportage, témoignage de migrants et autres victimes de l'esclavage moderne. Abidjan.